Vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, nous sommes en direct de Washington. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Avec vous ce soir, Nicolas Pinault et Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
À la une ce soir, les nouveaux accrochages à Bangui entre manifestants et forces internationales. 3 soldats français blessés.
Remaniement ministériel au Bénin.
C'est d'avoir des hommes pour aller animer politiquement leur département d'origine afin d'espérer avoir beaucoup de députés dans la prochaine législature pour modifier la constitution au Parlement.
Et nous ferons aussi le point sur l'épidémie d'Ebola. Et ne manquez pas notre reportage sur le commerce de la friperie à Abidjan.
Bon, ici, il y a des pantalons de 500, il y a des chemises de 500, il y a des chaussures même de 1000 francs, 1200. C'est-à-dire qu'avec c'est avec 5000 même. Vraiment, tu vas t'habiller, on ne saura même pas que tu as acheté des vêtements à coûter. Parce que ici, les vêtements, c'est des vêtements de marque.
Sans oublier les sports en fin d'émission, mais tout d'abord le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonsoir.
À Bangui, situation toujours tendue dans le 3e arrondissement. Plusieurs membres de la communauté musulmane ont marché aujourd'hui pour exiger le départ des troupes françaises de Centrafrique. Par ailleurs, de nouveaux affrontements dans la capitale centrafricaine entre les forces françaises et européennes face à des hommes armés dans le quartier musulman de PK5. Le point avec Timothée Donangmaï.
Dans le secteur de PK5, la tension est toujours vive et un calme précaire a régné ce jeudi. La communauté musulmane de ce secteur a marché dans la matinée pour exiger le départ des soldats français de Centrafrique, une marche qui a pris fin devant le bureau local de l'ONU. L'opération Sangaris assure n'avoir enregistré dans son camp aucune perte en vie humaine, mais 3 blessés. Pierre-Yves Sarzeau est le chargé de communication de la force française.
Dans ces affrontements qui ont été rudes, 3 soldats de la force Sangaris ont été blessés, dont 2 ont été évacués sur une plateforme hospitalière militaire parisienne, mais leur pronostic vital n'est pas engagé, ils vont bien.
De son côté, le fort parle de 9 blessés suite à l'attaque d'un groupe d'extrémistes. Mario Reyna, conseiller en communication de Fort RCA.
Les forces de l'OFOR, police et armée, ont été attaquées encore une fois par des éléments extrémistes et des criminels qui s'étaient mélangés à la foule. Et là, l'attaque a finalement causé les 9 blessés, donc 5 blessés de grenade et 4 traumatisés.
Les affrontements de mardi et mercredi au PK5 ont fait au moins 5 morts, dont un agent de la Croix-Rouge et plus d'une trentaine de blessés.
Le groupe islamiste armé Boko Haram s'est emparé de la ville de Bouniadi, dans l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Il n'y a pas de soldats à Bouniadi et ce, selon des habitants, les militants de Boko Haram vont et viennent à leur guise, a déclaré à l'AFP un porte-parole du gouverneur de l'état de Yobe. Des habitants en fuite ont témoigné d'exécutions sommaires et de pillages par Boko Haram.
Lutte contre l'épidémie d'Ebola, l'Afrique du Sud a annoncé aujourd'hui la fermeture de ses frontières aux voyageurs en provenance des Guinées, du Libéria et de la Sierra Leone. Dans le même temps, le coordonnateur de l'ONU est arrivé dans la région. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le docteur David Nabarro est arrivé ce jeudi à Dakar en provenance des États-Unis. Il s'est tout de suite rendu au Libéria et devrait aller rapidement en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria. Selon le dernier bilan de l'OMS à ce jour, le virus Ebola a tué au moins 1350 personnes, dont 576 au Libéria, 396 en Guinée et 374 en Sierra Leone. La bonne nouvelle ce jeudi est venue d'Atlanta. Le médecin américain Kent Brantley, infecté au Libéria, a pu quitter l'hôpital. Ayant reçu un traitement expérimental, le docteur Brantley ne représente plus aucun danger selon les médecins. Lors d'une brève allocution, Ken Bradley a savouré sa sortie d'hôpital. Nancy Ridball, l'autre missionnaire américaine infectée au Libéria, a elle aussi pu quitter l'hôpital le 19 août, a-t-il précisé. Aujourd'hui est un jour miraculeux. Je suis très content d'être en vie, en bonne santé et d'avoir retrouvé ma famille.
Autre maladie non identifiée cette fois en République démocratique du Congo, plusieurs personnes sont mortes ces dernières semaines dans le district de la Chuapa, dans la province de l'Équateur. On écoute Camille Grodidier.
Le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange Numbi, le gouverneur intérimaire de l'Équateur, Sébastien Impeto, et des experts de l'Organisation mondiale de la santé sont sur place pour enquêter. C'est en juillet que l'on a commencé à signaler des cas de la maladie mystérieuse qui se caractérise par une forte diarrhée, de la fièvre et des vomissements. Deux sources sanitaires ont précisé que 4 infirmiers qui soignaient des malades ont été victimes de la maladie, ce qui va exacerber la pénurie de personnes personnel soignant dans l'Équateur. Des équipes de l'OMS et de la zone de santé de Boende ont prélevé des échantillons qui sont actuellement analysés à l'Institut national des recherches biomédicales à Kinshasa.
Toujours en RDC, 56 des 500 réfugiés angolais qui étaient partis mardi de Kinshasa pour entrer dans leur pays après des années d'exil sont toujours bloqués à la frontière pour des raisons administratives. En tout, 29 000 Angolais ont choisi de rentrer volontairement dans leur pays. Ils s'ajouteront aux 76 000 qui sont déjà rentrés depuis 2003, depuis le début des opérations de rapatriement organisées de concert avec le ACR, la RDC et l'Angola.
À Dakar, l'ex-ministre sénégalais Samuel Sarr a été arrêté et déféré devant le parquet pour offense au chef de l'État. Il sera fixé sur son sort dans les prochaines heures, comme nous l'explique Sarah Diaby.
Samuel Sarr a été arrêté mercredi soir par les éléments de la section de recherche après avoir accusé le président sénégalais Macky Sall de loger de l'argent mal acquis sur des comptes bancaires à l'étranger. Il est accusé par ailleurs d'actes et manœuvres de nature à troubler la sécurité publique, offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles. Il se considère comme un prisonnier politique, a affirmé son avocat, Maître El Hadji Amadou Sall, à la presse. Ministre de l'énergie sous Abdoulaye Wade et proche de ce dernier, M. Sarr s'en était également pris à l'avocat français William Bourdon, membre du collectif d'avocats de l'État dans le procès de Karim Wade. Il accuse le président actuel et Maître Bourdon, ancien président de la Fédération internationale des droits de l'homme et président de l'association Sherpa, de malversation économique et reproche à ce dernier de se taire quand il est grassement payé. Samuel Sarr apporte son soutien à Karim Wade en détention préventive depuis avril 2013 et accusé d'avoir illégalement acquis une fortune de 178 millions d'euros.
La principale centrale syndicale du Mali a lancé ce jeudi une grève de 2 jours pour réclamer une augmentation des salaires. L'Union nationale des travailleurs du Mali exige au moins 35 000 francs CFA de SMIG alors que le gouvernement veut le porter à 31 000 francs CFA. Pour l'allocation familiale, l'État propose 2 000 francs CFA contre 4 000 réclamés par l'UNTM. À la mi-journée, le débrayage a paralysé des services dans l'administration, les banques et la santé à Bamako.
Et puis une douzaine de familles de victimes de l'accident du vol AH-50-17 au Mali en juillet ont annoncé s'être réunies au sein d'une association pour obtenir plus d'aide et d'informations des autorités françaises et de la compagnie aérienne Air Algérie. Je vous rappelle qu'au total, 116 personnes, dont 54 Français, sont mortes le 24 juillet dans le crash dans le nord-est du Mali de ce vol qui devait relier Ouagadougou à Alger. Une association a déjà été créée début août au Burkina Faso, représentant au moins 28 familles de victimes originaires du Burkina Faso, du Liban et du Canada.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Ouais.
Il est 18h43 en temps universel dans le reste du monde. Intensification des raids aériens et tirs de roquettes entre Israël et le Hamas. 27 personnes sont mortes selon les secours palestiniens, dont 3 chefs militaires du Hamas. Les raids israéliens ce jeudi se sont concentrés sur Rafah. Nathalie Barge.
Un porte-parole militaire israélien a confirmé la mort de 2 des commandants, Mohamed Abu Samaleh et Raïd El Attar, les disant responsables, je cite, de grandes attaques terroristes contre Israël. Il a affirmé que ces attaques comprennent notamment l'assassinat de soldats israéliens et l'enlèvement du soldat Gilad Shalit en 2006. Dans le même temps, indique l'AFP, l'émir du Qatar a réuni ce jeudi à Doha le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du Hamas Khaled Meshal pour des concertations suite à la rupture de la trêve entre Israël et les Palestiniens dans la bande de Gaza. Les participants ont discuté du suivi de l'accord de réconciliation d'avril entre le Hamas et l'OLP, dominé par le Fatah. Selon l'agence palestinienne officielle Wafa, était présent à la réunion le chef de la délégation palestinienne aux négociations avec Israël, Azam Lamad, le responsable de l'OLP, Saeb Erakat, un responsable du Hamas, Moussa Abou Marzouk, et le chef des renseignements palestiniens, Majed Farage.
À Donetsk, les douaniers ukrainiens ont commencé ce jeudi l'inspection des premiers camions du convoi humanitaire russe bloqué à la frontière depuis une semaine. Cette procédure devrait permettre aux quelques 300 camions chargés, selon Moscou, de 1 800 tonnes d'aide humanitaire de traverser la frontière pour se rendre jusqu'au bastion rebelle de Lugansk, où la cargaison doit être distribuée par la Croix-Rouge. Dans le même temps, Kiev a affirmé avoir saisi 2 blindés d'une division aéroportée russe près du bastion des séparatistes à Lugansk.
Et puis enfin, les États-Unis amendent record pour Bank of America, 16,65 milliards de dollars. La banque met ainsi fin aux poursuites liées au subprime, ces crédits immobiliers à risque à l'origine de la crise financière. Le ministère de la Justice précise que c'est l'amende individuelle la plus élevée jamais infligée à une entreprise ici aux États-Unis.
Voilà pour le journal, au micro Bagassi Koura et Nicolas Pineau en direct de Washington. On passe à la partie magazine de cette émission. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
Direction tout de suite le Bénin où il y a eu un remaniement ministériel selon le président Yayi Boni. Il s'agit d'un réajustement technique qui doit redonner un nouveau souffle à l'économie nationale. Le point avec Lola Akomachri.
Ce nouveau gouvernement troisième du genre depuis 2011 enregistre 7 nouvelles entrées contre 16 maintiens et 4 permutations de postes ministériels. Selon un communiqué de la présidence, ce remaniement est consécutif à la tenue le mois dernier de la table ronde économique à Paris sur le financement des projets de développement. Mais déjà, l'opposition émet de sérieux doutes sur cette raison. Écoutons Eric Sogadi, secrétaire général adjoint du Parti social-démocrate.
Sur le fond, ce remaniement a consacré le départ du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Économie maritime, du ministre des Finances. Lorsqu'on sait que l'économie du Bénin a comme pour base l'agriculture et que la seconde source de revenus du pays, c'est les recettes fiscales, donc le ministère des Finances. Troisième source de revenus du pays, le port autonome de Cotonou. Alors, on peut sans doute dire que le chef de l'État reconnaît que l'économie du pays ne marche pas du tout. Les objectifs, nous a-t-on dit, c'est des objectifs de développement, alors qu'on nous a dit que la table ronde de Paris était une réussite. Si les ministres qui ont contribué à la réussite de cette table de ronde quittent le gouvernement, alors je ne comprends pas.
À l'Union fait la nation, une coalition de 11 partis de l'opposition. Les réelles motivations qui sous-tendent ce remaniement sont d'ordre électoraliste. Théophile Moncho, coordonnateur adjoint de l'Union fait la nation.
Quand on a échoué pour modifier la Constitution avec toutes les tentatives au Parlement, les députés ont rejeté l'échec sur la modification du droit de grève des magistrats. Maintenant, la troisième phase que nous connaissons, c'est d'avoir des hommes pour aller animer politiquement leur département d'origine afin d'espérer avoir beaucoup de députés dans la prochaine législature pour modifier la Constitution au Parlement. Parce que pour nous, à l'Union fait la nation, malgré les déclarations, nous avons l'impression que le chef de l'État n'a pas renoncé à modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat.
Il faut rappeler que la nomination de ce nouveau gouvernement intervient à 8 mois des élections législatives dans le pays. La prochaine élection présidentielle est prévue pour se tenir avant le mois d'avril 2016.
La Voix de l'Amérique au Bénin, sur Fraternité FM à Parakou.
Autre changement de gouvernement en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie. Nouakchott a un nouveau Premier ministre depuis hier. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Équipement et des Transports, Yahya Ould Ademine, qui succède à Moulay Ould Mohamed en fonction depuis 2008. Pour les précisions, Timothée de Nangmaï a joint à Nouakchott notre correspondant Brahim Dia.
Le nouveau Premier ministre Yahya Ould Ademine a 61 ans. Il occupait jusqu'ici le poste de ministre de l'Équipement et des Transports. C'est un peu une petite déception parce que le président Mohamed Oul Abdelaziz, qui a été élu le 21 juin passé, avait un peu bâti campagne à l'endroit des jeunes. On le présentait comme le président des jeunes et que le nouveau mandat, ça allait être le mandat des jeunes. C'est pourquoi on s'attendait à un Premier ministre jeune. Donc il y a une petite déception par rapport à ça. Mais on se dit que les choses pourraient être rattrapées parce que les consultations pour la mise en place du nouveau gouvernement ont commencé. Il pourrait y avoir une augmentation du quota des jeunes dans le gouvernement qui verra le jour dans les prochaines heures ou les prochains jours.
Quels sont les défis qui attendent le nouveau Premier ministre?
Le premier défi, ça sera celui de la lutte contre la pauvreté. Plus de 40% des Mauritaniens vivent en dessous du seuil minimum de pauvreté. Le constat a été même fait par le Fonds monétaire international que les bons résultats macroéconomiques n'ont pas eu beaucoup d'incidence sur la lutte contre la pauvreté et le chômage, avec un taux de chômage de plus de 30%. Il y a également un autre défi. L'élection présidentielle passée a été boycottée par la quasi-totalité de l'opposition mauritanienne. Et une opposition qui ne reconnaît pas la légitimité du résultat de ce vote et qui ne reconnaît pas la légitimité des autorités actuelles. Alors le Premier ministre doit faire face à cette crise politique, voir comment ramener l'opposition à la table des négociations. Il y a une dernière chose. Les pluies de l'hivernage actuel, l'hivernage en cours, ont commencé avec beaucoup de retard et c'est une grosse inquiétude au niveau de l'intérieur du pays, notamment des éleveurs et des agriculteurs.
Alors face à ces problèmes, de quelle marge de manœuvre dispose Yahya Ould Hademine?
Le prédécesseur de Yahya Ould Hademine, Moulay Mohamed Lakhdaf, on le voyait seulement pendant les déclarations de politique générale et dans certaines cérémonies protocolaires. La Mauritanie vit un régime présidentiel assez marqué qui ne laisse pas beaucoup de marge au Premier ministre. Alors il y a eu une petite réforme constitutionnelle en 2012 qui a augmenté les prérogatives du Premier ministre, mais il n'en demeure pas moins que vu la législation actuelle, notamment la Constitution, et vu la super activité du président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui a tendance un peu à s'occuper de tout, même dans les détails, il fait ombre généralement au Premier ministre, et Yahya Ould Hademine, on ne s'attend pas beaucoup ici à ce qu'il soit autre chose que le premier des ministres, parce qu'ici on a l'habitude de dire que tout se décide à la présidence de la République.
Brahim Dia, le correspondant de La Voix de l'Amérique à Nouakchott.
Et retour ici aux États-Unis où le ministre de la Justice, Eric Holder, s'est rendu hier à Ferguson. Monsieur Holder a rencontré notamment des leaders communautaires pour tenter de ramener le calme et l'ordre dans cette banlieue de Saint-Louis, dans l'état du Missouri. La calme semble revenue dans la ville. Pour preuve, le gouverneur de l'état a demandé un retrait progressif de la garde nationale, Michel Joseph.
Pas de justice, pas de paix. Meldon Moffitt, à l'instar de nombreux habitants de Ferguson, jure que l'on ne va pas l'empêcher de s'exprimer. Nous serons ici tous les jours, toute la journée. Sous surveillance policière, ce jeune homme et d'autres manifestants occupent l'avenue Florissant Ouest. C'est ici que l'adolescent Michael Brown a été abattu par un policier blanc, ce qui a déclenché des protestations violentes, des actes de pillage et de vandalisme. Ce lieu est devenu maintenant le symbole d'une communauté déterminée à faire cesser les troubles et demander justice. L'avenue Florissant Ouest est devenue l'épicentre d'un débat national sur la race, la classe sociale et la justice en Amérique. Les dégâts de ces derniers jours sont certes visibles, mais aussi la volonté de reconstruire. La police et les habitants font un travail de sensibilisation, désireux de bâtir la confiance et d'apaiser la colère. C'est vrai, on m'a mal jugé. J'ai été arrêté sans raison. Les policiers m'ont mal parlé. Mais en tant que noir, il y a une meilleure manière de gérer cela. Ce n'est pas de sortir et de faire voler en éclats les acquis de nos communautés. La police accuse des groupes extérieurs d'avoir provoqué les violences. Les enquêteurs d'Amnesty International rétorquent que les policiers sont allés trop loin en ignorant les droits des manifestants pacifiques. Nous reconnaissons que la police doit se défendre. Nous demandons que cela soit proportionnel aux menaces et nous demandons que les comportements de quelques-uns ne portent pas atteinte aux droits du plus grand nombre. Meldon Moffitt témoigne sur son expérience. Il dit avoir été injustement ciblé et arrêté par la police. Ce sont les policiers qui nous mettent en colère. Ils viennent ici avec leurs pistolets paralysants, avec leurs fusils. Ils braquent les projecteurs sur nous, nous obligeant à nous déplacer alors que nous ne faisons rien de mal. Nous venons juste pour protester. La police a répondu qu'elle est simplement là pour protéger le public et les magasins. N'en déplaise, Moffitt et les autres répètent à l'envi qu'ils sont là pour obtenir justice.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, le spectre du racisme refait surface aux États-Unis après la mort d'un jeune Africain-Américain tué par un policier blanc à Ferguson. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Il est bientôt 18h50, temps universel, à Abidjan. Parlons de ce marché consacré exclusivement à la vente des friperies venues d'Amérique, d'Asie et de l'Europe. Il s'étend sur une superficie de plusieurs hectares et fait le bonheur des populations ivoiriennes et de la sous-région. Reportage coloré de notre correspondant Germain Dri.
C'est Kouté, un quartier de la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan qui abrite ce marché qui grouille de monde mardi et vendredi. Là-bas, ce sont des vêtements de deuxième ou troisième main qui sont vendus. Pasteur Zagol.
Nous autres qui fréquentons le marché de Kouté, nous ne pouvons pas aller ailleurs, comme au plateau. Nous sommes conscients que c'est des habits que d'autres personnes ont apportés avant nous. Les friperies, on peut les avoir 1000 francs, 1500 francs. Les pantalons, à peu près au même prix. On parle de trois types de vêtements. Il y a les vêtements qui sont bien, et puis ceux qui n'est pas assez... qui n'est pas bien, on les voit après. Donc 5 000 francs pour vous habiller.
Bon, ici, il y a des pantalons de 500, il y a des chemises de 500, il y a des chaussures même de 1 000 francs, 1 200. C'est-à-dire qu'avec c'est avec 5 000 même. Vraiment, tu vas t'habiller, on ne saura même pas que tu as acheté des vêtements à coûter. Parce que ici, les vêtements, c'est des vêtements de marque.
Les origines des habits, selon les acquéreurs que nous avons trouvés sur place, sont diverses.
Le plus souvent, on nous parle des habits français au revoir. Mais quand vous les visitez, vous rendez que le style dans lequel ces habits ont été cousus, c'est un style européen, japonais, chinois, américain aussi.
Les clients qui visitent le marché sont d'horizons divers. Guédan Yoman Serge.
Les gens qui quittent l'avion pour venir. Makouri, Trècheville Plateau, bon, Rivera. Les gens qui quittent loin pour arriver à côté ici. Burkina, Boaké, Korogo.
Moussa Gaba, vendeur, privilégie la journée de mardi pour les bonnes affaires.
On vend tout. On vend préparer, on vend cash. Marché de côté, c'est un grand marché qui vient d'Aloa, Gewa. C'est que c'est là, tout le monde vient à Béjan, tout complet, il vient. C'est tout mardi, le jour de mardi.
Les marchandises sont vendues à bas prix, mais un entretien des habits s'impose avant leur utilisation.
Lorsque nous les achetons, chez nous à domicile, nous les relavons. Nous les entretenons de manière à ce que, lorsque nous les portions, nous n'avons pas de problème.
Le souhait des personnes qui fréquentent le marché de Kouté est qu'un minimum de sécurité soit mis en place. Amiens Juliette.
Comme dans tous les marchés, il y a des voleurs. Je passais dans le marché, il y a une fille qui pleurait. Elle a mis son porte-monnaie dans son sachet. Ils ont déchiré le sachet, ils ont pris son bédou.
Je souhaiterais qu'il y ait une société de sécurité quand même pour veiller sur les clients qui viennent. Parce que par moment, on voit que d'autres mecs qui viennent faire le marché, ils ont l'argent et puis, paf, on voit l'argent. Et puis ici, on remarque qu'il y a certains jeux hasard que les gens font ici pour gruger les gens.
La genèse du marché de Kouté avec Maître Saï Douara.
Le marché de Kouté, au départ, c'était des ONG, des femmes qui venaient donner des petits draps. Bon, donc, on venait payer des subsides rien que pour pouvoir peut-être les petits frais de déplacement. Autre. Donc, ça fait que comme tout le monde voyait que c'était moins cher, alors les gens venaient à tout moment. Aujourd'hui, c'est devenu un grand marché.
Germain Dri, habituant la voix de l'Amérique.
Voilà, vous écoutez la voix de l'Amérique, c'est l'heure de sport. Donc, Nicolas, on commence par du football. Hein, la Confédération africaine de football, donc, qui examinera mercredi prochain au Caire l'appel déposé par la Fédération rwandaise.
Et oui, l'affaire Vahoua qui conteste sa disqualification des éliminatoires de la CAN 2015. Les Guêpes du Rwanda avaient été éliminés après avoir aligné un joueur disposant de deux identités différentes, Dadi Birori et Etakiama Agiti Tadi. Le Rwanda plaide la bonne foi et a demandé à réintégrer le groupe A des éliminatoires avec l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Soudan. Pour le moment, c'est toujours le Congo repêché qui doit affronter le Nigeria à Calabar. Ce sera le 6 septembre.
Et après la CAF, la FIFA se veut rassurante sur l'organisation des compétitions malgré le virus Ebola.
Et oui, l'instance du football mondial confirme que la Coupe du Monde des clubs 2014 se tiendra bien au Maroc en décembre prochain. En tout cas pour le moment. Dans un communiqué, la FIFA a tenu à nier les rumeurs en précisant que pour le moment, aucun cas d'Ebola n'avait été recensé au Maroc.
Et on joue ce soir les barrages de la Ligue Europa.
Et oui, beaucoup de matchs, notamment le club kazakh d'Astana contre les Espagnols de Villarreal, Helsinki qui accueille le Rapid de Vienne, Tottenham en déplacement à Chypre, à Limassol, et puis le PSV Eindhoven qui reçoit le Shakhtar Karagandy, club du Bélarus, enfin le Real Sociedad, le club espagnol contre les Russes de Krasnodar.
Et les résultats des derniers matchs de barrage aller de la Ligue des Champions hier.
Le FC Porto s'impose à Lille 1-0. Autre victoire à l'extérieur sur le même score, celle du Zénith Saint-Pétersbourg sur la pelouse du Standard de Liège. Pour le reste, bagassi que des matchs nuls un partout entre Maribor et le Celtic Glasgow, Alborg contre l'Apoel et puis le Slovan Bratislava contre le Baté Borisov.
Et on reparle de Mario Balotelli qui serait en route vers l'Angleterre.
Eh oui, Super Mario, l'attaquant du Milan AC, serait sur le point d'être transféré à Liverpool contre une indemnité de 20 millions d'euros. C'est en tout cas ce qu'indiquent les médias italiens. Après moins de 2 ans passés à Milan, l'attaquant de 24 ans s'apprête à retrouver la Première Ligue qu'il connaît bien, Bagassi, pour avoir joué à Manchester City entre 2010 et 2013.
Et Nicolas, vous avez entendu parler du Ice Bucket Challenge ?
Oui, tout à fait. Hein,
vous avez versé votre seau d'eau glacée sur vous ?
Non, j'ai versé du rire en regardant beaucoup de vidéos notamment.
Et voilà donc Marco Materazzi, donc l'homme qui avait reçu un coup de tête de Zidane, lui lance ce défi de Ice Bucket.
Exactement, alors c'est sur le compte Instagram de l'ancien joueur italien et sur une vidéo postée, Materazzi, avant de déverser l'eau glacée contenue dans une réplique du trophée de la Ligue des Champions, tourne le dos pour enlever un maillot de la Juventus au nom de Zidane, désignant ainsi celui qui doit lui succéder dans la chaîne. On rappelle que l'Ice Bucket Challenge est devenu un phénomène de mode qui a gagné les people et les personnalités. Le défi, dans le but de récolter des fonds pour une association qui lutte contre la maladie de Charcot, consiste à se verser un seau d'eau glacée sur la tête et désigner la prochaine victime dans cette chaîne de solidarité.
Voilà, et certains se plaignent que c'est un gaspillage des ressources en eau. Donc c'est tout pour le sport, on va passer à l'actualité musicale.
Voilà les bad boys de la musique américaine. Chris Brown en featuring avec Lil Wayne, ils chantent Loyals. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game goes, she be mine by halftime. Ooh, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman, Junior and this bitch, no flamingos. And I done did every day, but trust these hoes. See me from flip. Winner, it's the road, you. And your nick can't do nothing for you. Broken. I can make a broke rich, but I don't fuck a broke. I know your girl wanna lay with me. I took her to the bay with me. Got them white girls like Lady Gaga, rolling up that by Molly, I'm a rasta. She wanna do drugs, smoke, get drunk. She wanna see him in the trap, and I bet she love all the rappers. When I reach the room, won't you, baby?
That's where they be yelling, I'm a pimp by blood, not relation. I don't chase some, I replay some. Ha, LVs, Hermes, Dolce. Rules ain't loyal, man, they rotate. School me to the game, now I know my duty. Put her in the loader, she was riding in that hoodie. That got my own hope. Yo, got my own smoke. Had to put my mic back on. Tell that, put a ring back on.
C'est sur ces notes de musique que s'achève notre émission Le Monde aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Vous nous retrouvez évidemment sur le www.lavoixdelamérique.com et sur notre page Facebook. Déjà plus de 41 000 fans. Continuez. Bagassi Koura et Nicolas Pineau vous ont accompagné ce soir dans ce studio. La mise en onde assurée par Yemi Obadjemi. Merci de votre fidélité à nos programmes. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.